La vire faisait la largeur de ce plateau à pain. C'est dans un autre train, sur une voie ferrée étroite, grimpant à plus de 2000 mètres, alors que nous quittons les miasmes de Calcutta pour rejoindre les hautes montagnes de Darjeeling à la fin du mois de mars 1925, que je prends enfin le temps de repenser aux mois d'hiver très chargés qui ont précédé notre départ. Début janvier, nous sommes repartis à Zurich, tous les trois, afin de rendre visite à George Ingall Finch, le plus éminent alpiniste anglais vivant, à l'exception peut-être de Richard Davis Deacon. Si Finch a participé à l'expédition dans l'Everest de 1922 avec Mallory et le diacre, il a, comme ce dernier, eu la malchance de tomber en disgrâce auprès des autorités suprêmes, se fâchant non seulement avec George Leith Mallory, mais réussissant en plus à se mettre à dos tout le comité de l'Everest, l'Alpine Club et les deux tiers des membres de la Royal Geographical Society. Finch avait brièvement fréquenté l'école de médecine de Paris, avant de bifurquer vers les sciences physiques, en poursuivant ses études à l'Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich à partir de 1906. Capitaine dans la Royal Field Artillery en France, en Égypte et en Macédoine durant la guerre, il avait ensuite repris l'alpinisme, essentiellement dans les Alpes suisses, et réussi plus de premières ascensions que tous les autres membres de l'expédition de l'Everest réunis. Il était bien plus au fait des nouvelles techniques d'escalade utilisées par les Allemands et les autres Européens que ne l'était le comité de l'Everest ou tout autre alpiniste britannique. Pourtant, il n'avait pas été choisi pour l'expédition de 1921, officiellement à cause de faibles résultats aux tests physiques. Autre raison, Finch, bien que citoyen britannique et officier d'artillerie décoré pendant la Grande Guerre, avait passé tant de temps en Suisse alémanique avant et après le conflit qu'il était plus à l'aise en allemand qu'en anglais. Or, le brigadier général Charles Bruce avait expliqué les choix du comité de sélection en ces termes. Dans la mesure du possible, il préfère, nous préférons, que les expéditions dans l'Everest demeurent un club d'anciens des public schools. Entre nous, nous l'appelons le BAT, britannique avant tout. D'après le diacre, ce même général Bruce, qui avait dirigé l'expédition de 1922, avait un jour écrit à d'autres membres potentiels du comité et de l'équipe, dont notre ami, que George Finch était un hâbleur doté d'invraisemblables compétences. Il se brosse les dents le 1er février et prend un bain le même jour si l'eau est très chaude, sinon il le repousse à l'année suivante. Mais à côté de son apparence souvent négligée et de son étrange accent allemand, le premier péché de Finch, d'après les membres BAT du comité, c'était ses invraisemblables compétences. Le fait que George Finch ne cesse de proposer des innovations techniques pour conquérir l'Everest. Ni la Royal Geographical Society, ni l'Alpine Club, pas plus d'ailleurs que le comité de l'Everest, n'aimaient les innovations. Les vieilles méthodes étaient les bonnes d'après eux. Bottes ferrées, piolées à la mode du 19e siècle, et de fines épaisseurs de laine entre l'alpiniste et les températures négatives de cette atmosphère quasi extraterrestre que l'on trouve au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Parmi ces absurdes innovations, figurait un manteau garni de duvet d'oie, que Finch avait conçu et fabriqué spécialement pour ces conditions extrêmes. Après avoir testé plusieurs matériaux, il avait opté pour un fin mais très solide tissu de montgolfière à la place de la laine, de la soie et du coton habituel, et s'inspirant du plumage des oies de l'Arctique, créé un long vêtement fait d'un assemblage de compartiments remplis de duvets pour emprisonner la chaleur dans des poches d'air. Résultat, à des altitudes de plus de 6000 mètres, Finch avait été le seul homme de l'expédition de 1922 à ne pas geler dans le froid et le vent. Une autre raison, enfin, expliquait l'exclusion de George Finch de l'expédition de 1924, malgré ses excellents états de service lors de la précédente tentative d'ascension de l'Everest. Le jeune Geoffrey Bruce et lui avaient même établi un bref record d'altitude lors de leur assaut raté mais audacieux du sommet le 27 mai 1922. C'était lui qui avait proposé et adapté l'appareil à oxygène du Royal Flying Service utilisé par les membres de l'équipe, avec de très bons résultats, en 1922 et 1924. Mallory et Irvin, au moment de leur disparition lors de la dernière expédition, portaient l'appareil de Finch, même s'il avait été largement redessiné par le bricoleur de génie qu'était Sandy Irvin. Arthur Hinks, l'homme du comité chargé de dépenser et d'économiser les fonds dédiés à l'expédition, avait écrit un commentaire devenu ensuite célèbre à propos de l'appareil à oxygène de Finch, longtemps après qu'il avait prouvé son efficacité lors d'expériences dans des caissons d'altitude sur l'Eiger et même l'Everest. « Je serais particulièrement désolé qu'à cause de l'appareil à oxygène, il n'aille pas aussi haut qu'il le pourrait sans lui. Si certains dans le groupe ne vont pas à 7600 ou 7800 mètres sans oxygène, ce sont des gredins. » Des gredins ? Facile à dire pour quelqu'un qui ne met jamais les pieds hors de Londres, a commenté le diacre dans le train qui nous emmenait à Zurich en janvier 1925. J'aimerais transporter Monsieur Hinks à 8000 mètres d'altitude, le voir haleter, être pris de haut le cœur et se contorsionner comme un poisson hors de l'eau, et lui demander alors s'il se considère comme un gredin. Pour moi, c'en est un, même quand il reste au niveau de la mer. Nous envisagions d'emporter 25 de ces appareils conçus par Finch et améliorés par Irvin, ainsi que 100 réservoirs d'oxygène pour notre propre expédition. C'était plus que les 90 cylindres prévus par Mallory et son équipe en 1924 pour alimenter des dizaines d'alpinistes et de porteurs, et nous ne serions que trois. « Et le cousin Reggie ?» a demandé Jean-Claude, rappelant au diacre la condition imposée par Lady Bromley, selon laquelle nous devions emmener un membre de la famille avec nous. « Le cousin Reggie n'aura qu'à rester au camp de base et respirer l'odeur des yaks à 5000 mètres d'altitude, » a répliqué le diacre. À présent, en ce premier mois de l'année où nous tenterons de gravir l'Everest et y mourrons peut-être, le diacre voulait que nous rencontrions George Finch dans sa ville adoptive de Zurich. Il l'avait invité à Londres en proposant de payer tous les frais, ce qui n'aurait pas été illogique puisque nous étions trois et que Finch était seul. Mais l'irascible alpiniste avait télégraphié « Il n'y a pas assez d'argent dans toute l'Angleterre pour m'inciter à retourner à Londres ». Nous avons retrouvé George Ingall Finch au Kronenhalle, un restaurant huppé, même selon les critères zurichois, et connu dans toute l'Europe. Le diacre nous avait raconté que, malgré son glorieux passé, le Kronenhalle avait nettement perdu de sa superbe au cours des années récentes et pendant la période d'hyperinflation en Allemagne, et vivait sur une réputation remontant au siècle dernier. Puis le lieu avait été racheté et rénové par Hilda et Gottlieb Zumstick, qui, grâce à un nouveau chef, à un menu alliant le meilleur de la cuisine suisse, bavaroise et classique, et à un service irréprochable, avait rendu à l'établissement son ancien niveau d'excellence. De sorte que si les Allemands mouraient de faim de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres, les banquiers, commerçants et autres grands bourgeois suisses avaient le loisir de dîner dans le luxe. Le restaurant était situé au 4 Ramistrasse, à moins de 2 kilomètres au sud-est de l'université de Zurich, où les deux frères aînés de Jean-Claude avaient étudié avant de rentrer en France se faire tuer sur les champs de bataille, et tout près de l'endroit où la Limmatte se jette dans le lac. Le vent de janvier, qu'arrêtaient par intermittence les tramways passant en grondant dans la large Ramistrasse, me frigorifiait malgré mon épais manteau. À ce moment-là, je me suis demandé « Si je claque des dents rien qu'en traversant la Ramistrasse à Zurich, dans une petite brise soufflant d'un lac suisse, comment pourrais-je survivre au vent polaire balayant l'Everest au-dessus de 8000 mètres ?» Si j'avais cru avoir bien dîné à Boston, New York, Londres et Paris, aux frais de ma tante ou grâce aux largesses de Lady Bromley lorsque le diacre réglait l'addition, le Kronenhalle était certainement le restaurant le plus grand et le plus guindé dans lequel j'avais jamais mis les pieds. C'était le seul jour de la semaine où l'on y servait le déjeuner, ce qui n'empêchait pas les serveurs, le maître d'hôtel et le reste du personnel d'arborer le smoking. Même les hautes plantes en pot disposées ça et là, dans un coin, à côté de ce pilier ou là-bas près de la fenêtre, paraissaient trop cérémonieuses pour n'être que de la simple matière végétale. Elle semblait regretter de ne pas porter la queue de pie, elle aussi. Moi, j'avais mis le costume noir que le diacre m'avait acheté à Londres. Mais en traversant les vastes espaces du Kronenhalle, où des messieurs très habillés étaient attablés en compagnie de quelques femmes élégantes, j'ai mesuré à quel point je me sentais encore mal à l'aise dans la haute société européenne. Même si j'étais chaussé de ma plus belle et unique paire de souliers noirs bien cirés, j'ai soudain pensé qu'il devait avoir l'air de vieux godillot aux yeux de tous dans cet immense restaurant. Un petit homme mince au visage anguleux était assis seul à la table drapée de lin blanc et dressée avec des couverts en argent vers laquelle on nous a conduits. Ignorant les verres d'eau et de vin qu'on lui avait déjà servis, il paraissait absorbé dans un livre. Seul homme de la salle vêtu d'un simple costume trois pièces en tweed, et apparemment pas très propre, il y avait de la cendre sur le gilet, Finch était confortablement avachi, jambes croisées, dans cette posture que j'associe aux gens très très riches ou très très sûrs d'eux. Le diacre s'est éclairci la gorge, et l'homme au visage émacié a levé les yeux et refermé son livre qu'il a posé sur la table. L'ouvrage portait un très long titre en allemand que je n'aurais su traduire. Finch a retiré ses lunettes et nous a regardés comme s'il ignorait complètement qui nous étions ou pourquoi nous nous tenions devant sa table. Impossible de savoir si la trace sous son nez était une moustache brune mal taillée sur son visage bronzé ou le prolongement de la barbe naissante qui ombrait par endroits sa mâchoire et ses joues. Le diacre a décliné son identité, alors même que les deux hommes avaient fait toute l'expédition de 1922 ensemble, puis il nous a présentés. Finch ne s'est pas donné la peine de se lever, se contentant de nous tendre une main molle, comme s'il s'attendait presque à ce qu'on la baise au lieu de la serrer. Il n'en avait pas moins une poigne ferme, étonnamment ferme, compte tenu de ses doigts longs et fins. Puis j'ai remarqué ses phalanges et ses ongles abîmés, trahissant l'alpiniste ayant passé des années à glisser ses mains nues dans des fissures et des prises de granit, de grès et de glace coupante. Jake, Jean-Claude, a poursuivi le diacre. Je vous présente Monsieur George Inglefinch. Vous savez tous deux qu'il y a 2 ans et demi, Monsieur Finch et moi avons participé à l'expédition qui a dépassé les 8300 mètres d'altitude sur l'arête est et la face nord de l'Everest. Sans oxygène. À l'époque, c'était un record. Mais si nous avons grimpé 100 bouteilles d'oxygène ce jour-là, George a participé à la conception des appareils utilisés par Mallory et Irvine lorsqu'ils ont disparu en juin dernier, et il a eu la bonté de nous proposer de nous emmener dans son atelier, ici, à Zurich, après le déjeuner, pour nous en montrer le fonctionnement et nous donner quelques conseils relatifs à d'autres aspects de notre expédition. Le diacre paraissait embarrassé d'avoir prononcé autant de mots et, plus rare chez lui, ne pas savoir quoi dire ensuite. Finch est venu à son secours en désignant d'une main molle les 3 chaises vides. « Asseyez-vous donc, » a-t-il dit. « J'ai pris la liberté de demander un verre de vin, mais nous pouvons commander une bouteille pour la table. Surtout si c'est vous qui payez, Richard. » Le bref sourire de Finch a dévoilé des petites dents solides, quoique tachées de nicotine. Malgré les commentaires insultants de l'Alpine Club, il paraissait évident qu'il les brossait plus d'une fois par an. On mange bien dans ce saloon, mais je n'ai pas les moyens d'y dîner très souvent, ni même d'y déjeuner, a-t-il poursuivi dans son anglais britannique teinté d'un léger accent allemand. C'est pour ça que j'ai proposé que nous nous y retrouvions. Quand vous m'avez dit que vous m'invitiez. Il a fait signe au serveur d'un geste désinvolte et, curieusement, vu l'accoutrement de Finch, le gentleman en smoking a répondu avec alacrité et un respect manifeste. Les Zurichois étaient peut-être conscients des exploits alpins de Finch. Ou alors, les serveurs considéraient simplement que quiconque avait les moyens de déjeuner au Kronenhalle était assez riche pour mériter un tel traitement. Je suis resté un peu en retrait, je l'avoue, quand nous avons passé commande. J'ai juste dit que je prendrais la même chose que le diacre. Et quand Jean-Claude et Finch ont débattu avec animation du choix du vin pour la table. Vexé, je me demandais si Finch avait utilisé l'expression populaire « on mange bien dans ce saloon » parce que j'avais tellement l'air d'un Américain. Un Américain pas très flamboyant qui plus est. J'ai vite appris que ce n'était pas le cas. George Finch parlait de nombreuses langues et s'amusait à mélanger leurs expressions populaires dans ses phrases, y compris des américanismes. Avant la fin de la journée à Zurich, j'allais me rendre compte qu'il ne cherchait en rien à impressionner les autres par son savoir ou ses réussites personnelles pourtant admirables, et qu'il semblait plus modeste que la plupart des alpinistes de ma connaissance. C'était vrai qu'on mangeait bien dans ce restaurant. Le vin, pour autant que je puisse en juger avec l'expérience de mes 22 ans, était excellent. Et les serveurs, que je m'attendais à trouver arrogants, voire d'une condescendance tout alémanique à l'égard de notre petit groupe d'étrangers, nous ont traités avec beaucoup de courtoisie et ont fait montre d'une grande discrétion en servant et débarrassant notre table. J'avais hérité de mon père l'idée que l'invisibilité des serveurs était synonyme de qualité du service. C'était l'une des rares opinions personnelles que je l'ai entendue énoncer, outre celle qu'il avait exprimée le jour où ma mère et lui m'avaient déposé à Harvard. Me prenant à l'écart, il m'avait dit « Bien, Jake, à partir de maintenant, tu es responsable de toi-même. Essaie de garder ta bouteille de whisky hors de ta chambre, ta queue dans ton pantalon et ta tête dans tes bouquins jusqu'à ce que tu décroches un diplôme. N'importe lequel. » J'ai reposé mon verre et me suis aperçu que Finch, Jean-Claude et le diacre discutaient de notre prochaine expédition de récupération visant à rapporter les affaires personnelles de Bromley à sa mère ou, sachant que nos chances de réussite étaient quasi nulles, à lui fournir au moins un rapport détaillé sur la façon dont son fils était mort. Le diacre nous avait assuré que Finch avait compris la nécessité de ne parler à personne de nos projets. Vu l'état de ses relations avec le comité, l'Alpine Club et la Royal Geographical Society, il ne se pressera pas d'aller leur raconter quoi que ce soit, encore moins notre secret. « Vous connaissiez donc Percival, Lord Percival Bromley ?» demandait Jean-Claude. « Je l'ai rencontré il y a quelques années quand il m'a engagé comme guide, » répond Finch avec cette intonation britannique distinguée, matinée d'une pointe d'accent allemand. Bromley voulait traverser les douves blanches. Il s'est interrompu et m'a regardé pour la première fois. Il s'agit d'une arête abrupte et hérissée de pointes, à l'écart de la chaîne principale des Grandes Dents, à l'est de la vallée d'Arola. Oui, j'y suis allé, ai-je répliqué avec une pointe d'impatience dans la voix. Après tout, je n'étais plus un novice en matière d'alpinisme. J'avais fait la traversée des douves blanches l'automne précédent, avec Jean-Claude et le diacre. Finch n'a pas eu l'air de remarquer mon agacement, ou alors il s'en fichait. Il a hoché la tête et poursuivi. À l'époque, le jeune Percy était déjà capable d'effectuer la traversée, mais il s'était attaqué à ce qu'il appelait une délectable série d'impressionnantes cheminées, coupant les 600 mètres de parois rocheuses au-dessus du glacier de Ferpecle, et il voulait s'en corder à quelqu'un. Nous avons attendu la suite. Mais Finch semblait s'être désintéressé de Bromley et de la conversation pour tourner son attention vers son steak et son vin. « Comment l'avez-vous trouvé ?» a demandé le diacre. Finch a levé les yeux comme si notre ami s'était exprimé en swahili. Une comparaison mal choisie puisque George Inglefinch parlait un peu le swahili et le comprenait encore mieux. « Je veux dire, comment se comportait-il ? » a précisé le diacre. Finch a haussé les épaules et la discussion aurait pu s'arrêter là, pour notre plus grande insatisfaction. Mais peut-être a-t-il réalisé que nous étions venus de loin, que nous escaladerions sans doute bientôt les pentes de l'Everest pour retrouver le corps de Percy Bromley, et que nous, ou plutôt Lady Bromley, lui offrions un déjeuner dans le restaurant le plus onéreux de Suisse, voire même d'Europe. Bromley était un bon partenaire, a-t-il enfin répondu. Excellent grimpeur pour un amateur. Jamais une plainte, pas même quand nous avons dû passer une longue nuit froide sur une vire très étroite, sans nourriture ni équipement adéquat, sur l'arête sud escarpée à une longueur du sommet. Nous n'avions pas de sac de couchage, pas de manteau correct, et il n'y avait rien auquel s'attacher sur la paroi lisse. La vire faisait la largeur de ce plateau à pain. A dit Finch en montrant l'objet en argent. Nous n'avions pas de chandelle à tenir sous notre menton, si bien que nous avons monté la garde à tour de rôle pendant cette longue nuit, veillant à ce que l'autre ne s'endorme pas, risquant une chute de 1000 mètres. Pour s'assurer peut-être que nous avions bien compris, il a ajouté « J'avais une confiance totale en ce garçon. » Donc, Lord Percival était un meilleur grimpeur que certains l'affirment aujourd'hui. Le diacre terminait son Tafelspitz, un excellent plat de bœuf mijoté avec des légumes racines dans un bouillon parfumé d'épices variées, servi avec des pommes de terre rôties et une sauce à la pomme, à la crème et au réfort. J'ai toujours été émerveillé par la capacité des Britanniques à faire tenir des morceaux de viande recouverts de sauce sur le dos de leur fourchette qu'ils portent à la bouche comme si c'était non seulement facile, mais aussi distingué. Manger en Angleterre s'apprend, me suis-je dit, de la même façon qu'on doit apprendre à se servir de baguette en Chine. Tout dépend des autres, a répondu Finch après un silence lourd de sens. Il examinait notre chef d'équipe. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Bruno Siegel? Finch a éclaté de rire, un son discordant évoquant un aboiement.
Cette brute nazie et amie fanatique de Herr Hitler. Siegel est un alpiniste accompli. Je n'ai jamais escaladé avec lui, mais je l'ai croisé une bonne dizaine de fois dans les Alpes au fil des années.
Il est compétent et agile sur la glace et le roc.
Mais c'est un menteur, un scheisskerl, quelqu'un qui n'hésite pas à risquer la vie de ses jeunes partenaires d'escalade.
Qu'est-ce que c'est qu'un scheisskerl? A demandé Jean-Claude.
Un type sans cervelle et indigne de confiance, a répondu très vite le diacre en jetant un coup d'œil au serveur par-dessus son épaule. Puis s'adressant à Finch,
« Donc, si Herr Siegel vous disait que Percival Bromley s'est aventuré sur la dangereuse face nord de l'Everest, à un endroit où la masse de neige était manifestement propice aux avalanches, vous ne le croiriez pas ?»«
Je ne croirais pas, Bruno Siegel, si cette ordure m'affirmait que le soleil se lèvera demain. »
a répondu Finch en se servant la fin de la bouteille de vin.
Richard, n'avez-vous pas été l'un des derniers à voir les empreintes du monstre sur le col du lac Kala lorsque vous y avez conduit Mallory en 21?
A demandé George Ingall Finch entre deux bouchées de son Apfelstrudel recouvert de crème. Jean-Claude et le diacre s'étaient contentés d'un café tandis que je goûtais le gâteau au chocolat.
Le monstre? A demandé Jean-Claude en se redressant soudain.
J'avais remarqué que le copieux repas, auquel l'athlétique montagnard français n'était pas habitué, l'avait rendu somnolent.
« Un monstre ? » a-t-il répété comme s'il n'était pas sûr du mot anglais.
« Ya !» a répondu Finch. « Les empreintes d'un énorme bipède que notre ami Richard, ici présent, et le très regretté George Mallory, ont repéré au-dessus de 6700 mètres sur le col de l'Apkala. » Richard pensait, à juste titre, comme on s'en est ensuite rendu compte, que de là on pouvait peut-être distinguer une voie d'approche vers l'Everest, en y montant, à la fin septembre 1921, je crois. Ce n'est pas une vue qu'ils ont trouvée, mais les empreintes du monstre, n'est-ce pas?
Il s'est tourné vers le diacre.
Le 20 septembre, a confirmé le diacre en reposant sa tasse, en pleine période de mousson.
On s'enfonçait jusqu'à la taille dans la neige poudreuse.
Mais vous avez atteint le sommet de cette petite montagne. Plus un pic à probablement parler qu'un col, ya?
Malgré la neige, a dit Finch. Ce n'était pas une question. Le diacre s'est gratté la joue. Je voyais qu'il avait envie d'allumer sa pipe, mais se retenait tant que Finch n'avait pas fini son dessert.
Mallory et moi avons négocié la cascade de glace sans problème, mais la profonde neige nous ralentissait. Et les porteurs qui transportaient nos tentes ont dû faire demi-tour à 250 mètres du sommet. Nous sommes tous arrivés en haut le 22 et y avons établi le camp. Mallory et moi, Wheeler et Bullock, avec Wollaston, Morshed et Howard Bury en réserve.
Et les traces du monstre? A demandé Jean-Claude.
Oui, le monstre, ai-je insisté à mon tour. J'ouvrais la bouche pour la première fois du déjeuner, à part pour demander qu'on me passe quelque chose.
Au-dessus de la cascade de glace, le 20 et le 21, là où aucun de nous, grimpeur ou porteur, n'était jamais allé, il y avait des empreintes très nettes, aussi bien dans la neige fraîche que dans les endroits plus fermes et gelés, où l'on pouvait grimper sans rompre la surface, a dit le diacre.
Elle semblait appartenir à une créature à deux pieds.
Pourquoi semblait ?
A demandé Finch. Un léger sourire se formait sous sa moustache duveteuse. Mallory, Wollaston, Howard Bury et tous ceux qui ont atteint le col du lac Pala ont juré qu'il s'agissait des empreintes de pieds griffus d'une sorte de mammifère à deux jambes. Le diacre a vidé le fond de sa tasse. Aussitôt, un serveur s'est matérialisé et nous avons tous accepté un autre café pour pouvoir garder la table plus longtemps.
Elle faisait quelle taille ? Ai-je demandé.
Entre 35 et 40 centimètres de long, c'est bien ça ? Et en forme de pied humain ?
A dit Finch d'un ton interrogateur en se tournant vers le diacre.
Notre ami s'est contenté de hocher la tête. Puis, reposant une fois encore sa tasse, il a dit
« Quand Wollaston et les autres ont fini par arriver au col du lac Pala, nos porteurs, ceux de Mallory et les miens, puisque nous étions à la tête de cette deuxième tentative, avaient marché sur les traces que nous avions vues et les avaient complètement effacées. Aucun des alpinistes britanniques n'aurait pu dire avec certitude ce que c'était ou en préciser la longueur.
Mais George Mallory a pris des photos, a dit Finch.
Oui.
Et ces empreintes étaient presque identiques à celles qui avaient été vues et photographiées sur un haut col dans le Sikkim en 1889, a dit Finch.
Paraît-il, a répondu le diacre.
Finch a gloussé et s'est tourné vers Jean-Claude et moi. Je suis sûr que j'écarquillais les yeux autant que mon camarade français.
Les porteurs savaient très bien ce que c'était, a repris Finch avec son léger accent allemand.
C'était des empreintes de Metokangmi.
Un yeti.
Un quoi ?
Ai-je demandé, ma tasse de café en suspens dans l'air, comme si je ne pouvais ni le boire ni la reposer.
Un quoi ?
A demandé Jean-Claude presque à l'unisson.
Un yeti,
a répété Finch.
Non pas l'un des nombreux démons qui, d'après les croyances locales, peuplent la montagne, mais une créature bien réelle et bien vivante, sanguinivore, mesurant au moins 2,50 m,
des pieds énormes.
Un monstre semblable à un gorille ou à un humain, capable de survivre à 6 500 mètres d'altitude, voire encore plus près de l'Everest.
Jean-Claude et moi avons échangé un regard.
Finch a repris une bouchée de strudel, puis nous a souri.
J'ai moi-même vu des empreintes l'année suivante, en 1922, la première fois où je suis monté jusqu'à l'arête nord-est avec Geoffrey Bruce. À environ 7 600 mètres, dans un champ de neige qu'aucun de nous n'avait jamais foulé. Des empreintes de bipèdes, mais avec une foulée presque deux fois plus grande que celle d'un homme de très grande taille. Et dans la partie la moins profonde du champ de neige, là où les traces s'étaient moulées dans la glace molle, nous avons vu la forme d'un pied, environ 45 centimètres de long, avec ce qui ressemblait à des griffes au bout.
Il a dévisagé le diacre.
Vous étiez avec nous au monastère du Rongbuk en 1922, quand nous avons parlé du Yeti, n'est-ce pas ?
Le diacre a hoché la tête.
Finch nous a de nouveau regardés, Jean-Claude et moi. Le monastère du Rongbuk est un endroit sacré, tout près du village du Chobok, juste en face de l'entrée de la vallée menant ensuite au Chomolungma.
Le Chomolungma ? L'a interrompu Jean-Claude.
Finch s'était retourné vers le diacre et ne l'a pas quitté des yeux en répondant à J.C.
Le nom local de l'Everest. Ça signifie « déesse-mère du monde » ou quelque chose comme ça.
« Ah oui, »
a dit Jean-Claude, « j'avais oublié. »
Le colonel Norton a mentionné ce nom lors de notre entretien avec les alpinistes à la Royal Geographical Society.
« Les moines du monastère du Rongbuk connaissaient ce Yeti ? »
ai-je demandé. Je ne voulais pas qu'on s'éloigne du sujet du monstre.
Finch a hoché la tête et s'est adressé au diacre.
Vous avez entendu ce qu'ont dit le lama du Rongbuk et ses prêtres à propos des yétis sur l'Everest.
Était-ce 4 de ces créatures qui, d'après le lama, y vivaient ?
5, a corrigé le diacre.
Bruce ne cessait de les interroger sur les empreintes et les créatures. Et le maître des lamas, Dzatrul Rinpoche, nous a raconté tout à fait sérieusement que les moines et lui en avaient vu 5. Ils vivaient dans les hauteurs de la vallée, jusqu'au col nord et même plus haut, et suscitaient bien plus de crainte que les démons des montagnes. L'abbé nous a dit que le Yéti ressemblait à l'homme, mais en plus grand et plus massif, qu'il possédait un torse énorme et de longs bras puissants, qu'il était couvert de longs poils et avait des yeux jaunâtres, qu'il attaquait parfois le village de Chobok, mais jamais le monastère, buvait le sang des yaks, tuait les hommes d'un coup de griffe et enlevait les femmes du village. Un détail que Geoffrey Bruce a trouvé fort intéressant.
« Qu'est-ce que les monstres voulaient faire des dames ?»
a demandé Jean-Claude d'une petite voix presque enfantine. « Nous autres n'avons pas pu nous retenir de pouffer de rire, et J.C. est devenu tout rouge. » D'un ton bas, pour ne pas être entendu des serveurs, Finch a repris.
Le lama nous a raconté qu'un jour, le village avait envoyé des hommes armés en haut du glacier, mais qu'il n'avait pas retrouvé les yétis ni les femmes, du moins pas en vie, uniquement leurs squelettes et leurs crânes. Les os avaient été vidés de leurs moelles, et les orbites semblaient avoir été proprement léchées, d'après les mots du lama.
J'ai finalement dû reposer ma tasse sur la soucoupe. Le bruit de la porcelaine m'a fait penser au vent de l'Everest soufflant à travers des cages thoraciques rongées et les orbites béantes d'un crâne. Après avoir fini son café et s'être assuré que notre trio silencieux avait également terminé, George Inglefinch a appelé le serveur d'un geste élégant, dessinant dans l'air une addition imaginaire de ses doigts abîmés par les rochers. Quand la note est arrivée, il a fait signe avec autant d'élégance qu'elle devait être présentée au diacre. En sortant du Kronenal, nous avons pris à gauche dans Ramistrasse et subi de plein fouet l'assaut du vent glacial. Après avoir claqué des dents pendant 100 mètres, nous avons atteint le pont Kebrücke, tourné à gauche sur l'avenue Utoke, déserte, et avancé péniblement sur la promenade le long du lac. Le parapet bas en béton à notre droite était hérissé de stalagmites. Un grincement constant venu d'en bas nous rappelait que la glace, le lac était gelé près du bord et l'eau liquide ne commençait qu'à 100 mètres environ, frottait contre la digue en ciment. Le vent soufflait assez fort pour soulever l'écume au loin sur l'étendue blanche et m'aurait fait glisser si les Suisses, toujours efficaces, n'avaient pelleté la neige et la glace tout le long de la promenade, qu'ils avaient aussi généreusement aspergée de sel. Finch nous avait informé que son entrepôt ne se trouvait qu'à 800 mètres de là, mais alors que Jean-Claude et moi avancions pesamment derrière le diacre et lui, en essayant d'entendre leur conversation malgré le vent mugissant, ça paraissait une trop grande distance à parcourir à pied.
« Je sais ce que vous essayez de faire, Richard, » disait George Finch, « mais c'est tout bonnement impossible. »«
Qu'est-ce que j'essaie de faire, George ?»«
De tenter l'ascension de l'Everest en style alpin. » Au lieu de la stratégie du siège adoptée par Mallory, Bruce et Norton, un camp après l'autre, attaque, retraite, nouvelle attaque, vos jeunes amis et vous comptez lancer un seul assaut rapide.
Mais ça ne marchera pas, Richard. Vous mourrez tous là-haut.
Nous avons été payés par Lady Bromley pour ne mener qu'une expédition de recherche.
Nous espérons au moins trouver et enterrer le corps de son fils, a dit le diacre.
Avec de la chance, nous retrouverons sa trace bien plus bas que le camp 4, contrairement à ce qu'a prétendu Bruno Siegel, ça n'a pas de sens.
Mais je n'ai pas parlé d'une tentative de gravir la montagne.
George Finch a hoché la tête.
Mais vous essaierez, Richard. Je vous connais.
Et je tremble en pensant au sort qui vous attend, vous et vos deux sympathiques amis.
Le diacre n'a pas répondu. Nous sommes passés devant l'opéra et avons tourné à gauche, dans une rue appelée Falkenstrasse. Au moins, nous avions maintenant le vent dans le dos.
Vous vous rappelez sûrement le jour où nous avons atteint le col de Pangla à 5200 mètres et aperçu l'Everest pour la première fois,
a repris Finch. Forcément, a grommelé le diacre.
Le vent était si violent que nous avons dû nous coucher par terre et nous cramponner à des rochers, en suffoquant pour ne pas nous faire balayer.
Puis soudain, la chaîne himalayenne nous est apparue. Des centaines de kilomètres de haut sommet et l'Everest, pourtant distant de 60 kilomètres au sud, dominaient tout. Vous vous souvenez du nuage qui y était accroché? Vous vous souvenez du plumet de neige qui s'étirait sur des kilomètres à l'ouest? Cette monstrueuse montagne créait sa propre météo. J'y étais avec vous, Georges.
Nous avons pris une rue plus étroite où s'alignaient des entrepôts fermés et de vieux immeubles sinistres. Ziffelstrasse annonçait la plaque couverte de givre.
Vous savez donc qu'un assaut de style alpin est impossible.
A repris l'alpiniste en sortant un lourd porte-clé de la poche de son manteau et en cherchant la bonne clé.
Grimpeur malade, porteur malade, vent terrible, soudaine et violente chute de neige, arrivée précoce de la mousson, blessure, avalanche, chute de pierre, tente déchirée, appareil à oxygène détraqué, dysenterie, mal des montagnes, gelure, réchaud défectueux. Le moindre problème, et ils seront nombreux, Richard, vous le savez aussi bien que moi, le moindre problème ruinera votre tentative d'ascension en style alpin, écoutera l'avis de certains, ou de tous. Nous voici arrivés.
Finch a pénétré dans l'ouverture sombre et est tâtonné pour trouver un interrupteur.
Le rez-de-chaussée de cet entrepôt n'était pas l'immense espace auquel je m'étais attendu, ou plutôt, si, mais il avait été divisé par des murs de 3 mètres de haut, sans plafond, pour créer des dizaines de pièces de stockage, toutes fermées par des portes grillagées et de gros cadenas. Nous avons traversé la moitié du hangar sonore en suivant Finch, qui a sorti une autre longue clé pour ouvrir la porte de son propre local, mesurant environ 7 mètres sur 6. À l'intérieur, des bouteilles à oxygène étaient posées sur un long établi collé contre le mur du fond. Une dizaine de piolets de taille variée étaient suspendus sur le mur de gauche. Une myriade de bottes ferrées et fourrées occupaient plusieurs étagères, tandis que sur une longue patère, différentes vestes en laine et des anoraks voisinaient avec une rangée de longues vestes ou manteaux matelassés. J'en ai compté 10, surpris que Finch en ait besoin d'autant. Il avait refermé la porte quand je m'en suis approché et que j'ai soulevé le tissu garni de duvet d'oie du long manteau le plus proche.
C'est ça, votre fameux vêtement en ballon ?
Finch m'a lancé un regard noir. À l'évidence, cette pièce particulière lui avait déjà valu trop de moqueries.
« C'est la parka en duvet d'oie que j'ai conçue pour l'Everest », a-t-il répliqué d'un ton sec.
« Oui, c'est du tissu de montgolfière, le seul matériau que j'ai pu trouver qui ne se déchire pas et qui est facile à coudre pour créer les compartiments de duvet. Il m'a tenu chaud, à plus de 8000 mètres d'altitude sous l'arête nord-est. »
Le diacre a pouffé de rire.
« Je confirme. » Georges, Geoffrey Bruce et moi, et Bruce était alors un alpiniste néophyte, avons utilisé de l'air anglais, c'est-à-dire l'appareil à oxygène de Georges, pour traverser la bande jaune jusqu'à un point situé juste sous l'arête nord-est. Nous l'aurions atteinte si l'appareil de Bruce n'avait pas cessé de fonctionner. Un tube de verre était cassé. Par chance, Georges avait emporté une pièce de rechange, mais il a dû s'arrêter et trafiquer son propre appareil pour leur fournir de l'oxygène à tous deux pendant qu'il réparait celui de Bruce. Tout ça à 8321 mètres d'altitude. À l'époque, le point le plus haut où les humains avaient jamais posé le pied.
Et là, nous avons dû faire demi-tour, a grommelé Finch. Renoncer à atteindre le sommet parce que Bruce était traumatisé d'avoir manqué d'oxygène.
Et dire qu'il était parmi les plus acharnés à vouloir atteindre le sommet sans air artificiel. Ah, s'il avait été un grimpeur expérimenté.
Il n'en dit pas davantage, mais la tristesse et la colère sont restées gravées sur son visage.
Le diacre a hoché la tête, compatissant. J'ai alors pleinement mesuré à quel point ces deux hommes, qui avaient grimpé plus haut que Mallory ou quiconque durant l'expédition de 1922, avaient dû être déçus et outragés de se voir privés d'une deuxième chance. Quelle rage avait dû les saisir lorsqu'on les avait informés qu'ils n'étaient pas choisis pour l'expédition de 1924.
Tenant toujours dans ma main le manteau matelassé de Finch,
J'imaginais soudain la rancœur qui devait valoir à ces deux hommes orgueilleux un constant goût d'amère humiliation.
« Ce que je voulais seulement dire, » a repris le diacre, « c'est qu'à notre retour au camp 4 ce soir-là, Geoffrey Bruce et moi étions transis de froid, tandis que Georges était resté au chaud pendant l'ascension, dans son manteau en duvet d'oie. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à chacun de vous d'apporter deux valises Gladstone et passer commande de 9 parkas à Georges.
« 9 ?»
s'est exclamé Jean-Claude en regardant les volumineux vêtements alignés sur la patère.
« Pourquoi autant ?
Sont-ils fragiles au point de s'user si vite ?»«
Non, » a répondu le diacre, « mais chacun de nous sera accompagné de deux porteurs d'altitude, pour qui j'ai commandé aussi des appareils à oxygène et des parkas matelassés.
9 en tout. Elles se compressent facilement. Nous les mettrons dans nos valises et les remporterons aujourd'hui même, afin que rien ne se perde pendant le transport. »
Mallory a inscrit ma parka en duvet sur la liste des vêtements possibles pour les grimpeurs en vue de l'expédition de l'année dernière, a dit Finch avec mauvaise humeur, mais aucun d'eux n'en a commenté. Ils ont préféré grimper et mourir dans de la soie, du coton, de la laine et encore de la laine.
La laine est chaude quand on accumule les épaisseurs, a fait remarquer Jean-Claude d'une voix timide. « Elle m'a maintenu en vie de nombreuses nuits sur des bivouacs en altitude. »
Au lieu de le contredire, Finch s'est contenté de toucher deux de ses vestes de laine usées et l'un des anoraks en gabardine coupe-vent pendu à la patère.
« La laine est merveilleuse tant qu'elle n'est pas mouillée. Mais une fois mouillée, autant par la sueur que la neige ou la pluie, son poids s'ajoute aux 18 kilos de matériel qu'on porte sur le dos et aux 15 kilos de l'appareil à oxygène. Et lorsqu'on s'arrête dans des vents violents, la sueur gèle sur les premières épaisseurs.
Il a secoué la tête. Votre nouvelle veste n'absorbe pas la sueur et ne perd pas son efficacité quand elle est mouillée, ai-je demandé. Finch a secoué la tête une fois encore.
Grâce aux propriétés respiratoires du duvet, je transpire moins, même avec les habituels sous-vêtements en laine. Mouillé, il perdrait effectivement ses qualités calorifuges. Ce sont les poches d'air qui se forment sur les plumes, qui maintiennent l'oie, et maintenant moi dans ma veste en duvet d'oie, au chaud. Mais le tissu de mon golfière que j'ai choisi résiste à l'eau, à moins d'être complètement immergé dans un lac.
Il a fait un petit sourire.
Il n'y a pas beaucoup de lacs au-dessus de 6000 mètres sur l'Everest. Sauf si l'on glisse.
J'ignorais qu'il y avait des lacs ou de l'eau stagnante sur les hauteurs du glacier du Rongbok,
a dit Jean-Claude, dévisageant toujours Finch.
Seulement des mares de fonte à l'entrée de la vallée glaciaire.
Georges Finch a soupiré devant la littéralité apparente de mon ami français et esquissé un très léger haussement d'épaule.
Si vous basculez de l'arête nord-est ou de l'arête sommitale et chutez de 3 kilomètres à la verticale, votre vitesse d'impact suffirait à faire fondre assez de glace pour former une belle mare.
Finch savait mieux que nous, même si tous les alpinistes le savent d'expérience, qu'un grimpeur ne tombe presque jamais en chute libre d'une montagne. Le corps heurte de nombreux rochers, blocs, amas de glace, arêtes et autres protubérances. De sorte que les petits morceaux qui atterrissent sur le glacier n'ont plus grand-chose d'humain.
« Ou pas ? »
a-t-il ajouté. Puis il a désigné l'établi encombré.
« Vos manteaux sont prêts, Richard. Vous pouvez repartir avec. Passons maintenant aux appareils à oxygène. Je voudrais examiner avec vous celui que nous avons utilisé en 1922. » Les changements apportés par Irvine pour son ultime assaut avec Mallory et la version finale sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, vous et moi. J'ai besoin de votre feu vert avant de les envoyer à Liverpool, où ils seront chargés sur le navire que vous prendrez le mois prochain.
Bien sûr, Jean-Claude et moi savions depuis le mois de novembre que le diacre avait commandé des bouteilles d'oxygène et du matériel respiratoire pour notre modeste expédition. Il avait décidé de ne pas faire appel à Sib Gorman, bien que l'entreprise anglaise ait fabriqué tous les appareils utilisés lors des expéditions officielles de 1921, 22 et 24. Ou peut-être justement à cause de ça. Le risque de fuite était trop grand. Si Sib Gorman laissait échapper qu'une autre expédition s'équipait pour l'Himalaya,
Ça reviendrait aux oreilles des dirigeants de la Royal Geographical Society, de l'Alpine Club et du comité de l'Everest. D'après lui, on ne pouvait faire confiance à aucune entreprise anglaise pour garder notre secret. Aussi avait-il eu recours à une source en Suisse. Cette source avait pour nom George Inglefinch, comme Jean-Claude et moi le découvrions. Mais quand je l'ai fait remarquer à voix haute, Finch a ri sous cap en secouant la tête.
« Non, Monsieur Perry, notre ami Richard Davisticon m'a envoyé l'argent de Lady Bromley. Mais je l'ai transmis à la Zürcherwerke für wissenschaftliche Präzision Instrumente und Geräte, une fabrique d'instruments scientifiques que je connais ici à Zurich. »
J'ai dû sembler dubitatif, car Finch a ajouté
« Je suis un scientifique, Monsieur Perry, un chimiste. Je travaille constamment avec ce genre d'entreprise. Ils sont suisses, ce qui signifie que la discrétion est inscrite dans leur gène. »
Le long établi était chargé de cylindres à oxygène, de supports pour les bouteilles, de valves, de tubes, de régulateurs et d'une variété de masques, tandis que divers outils courants ou exotiques étaient accrochés sur le mur au-dessus. Finch a tiré l'un des appareils vers nous.
« Vous le reconnaissez ?» a-t-il demandé au diacre.
Notre ami a confirmé d'un signe de tête.
Chacun de nous a porté un de ces engins à 8300 mètres d'altitude. Pas vrai, Richard? Et nous serions allés encore plus haut si le tube de verre du masque de Bruce ne s'était pas brisé à cause du froid.
Pas beaucoup plus haut. Nous n'aurions pas atteint le sommet ce jour-là, George. Impossible. Finch nous a de nouveau gratifiés de son étrange sourire crispé.
Vous et moi aurions pu atteindre le sommet avec ces bouteilles si nous avions laissé Bruce repartir seul au camp 5 et avions poursuivi sur l'arête. Et si nous avions été prêts à mourir là-haut? Je crois que nous serions arrivés au sommet vers le coucher du soleil.
Le diacre a secoué la tête une fois encore. Je me suis rendu compte qu'ils ne niaient pas leur possible réussite. Ils auraient tous deux pu atteindre le sommet de l'Everest au coucher du soleil ou juste après, ce jour de la fin mai 1922. Mais confirmaient seulement qu'ils n'étaient pas prêts à y laisser sa vie. J'ai décidé de poser la question évidente, quoique peut-être insultante pour Finch, le plus grand partisan de l'utilisation de l'oxygène.
Est-ce que cet appareil vous a vraiment été utile ? La plupart des alpinistes anglais de ma connaissance sont contre son usage sur l'Everest.
Étonnamment, c'est le diacre qui a répondu. La plupart des alpinistes anglais ne sont jamais allés plus haut que le col Nord. Dans le cas contraire, ils auraient mesuré les bénéfices de l'oxygène. Il est aussi indispensable de s'en munir que d'emporter de la nourriture ou un réchaud pour faire fondre la neige. Jean-Claude et moi avons peut-être paru sceptiques, en tout cas moi je l'étais, parce que Finch a tenu à entrer dans les détails.
Êtes-vous plus à l'aise avec le système métrique ou les mesures anglaises?
Peu importe, a dit Jean-Claude. J'ai admis que le système métrique était moins évident pour moi. Malgré l'usage constant des mètres et des kilomètres lors de mes ascensions en France, en Italie ou en Suisse, j'avais encore du mal à convertir les mesures en pieds ou en miles.
« J'utiliserai donc les deux, » a dit Finch. « Un exemple, peut-être. » Lors de l'expédition de 1922, il y a eu deux tentatives sérieuses d'atteindre le sommet à partir du camp de base avancé qui, cette année-là, se trouvait à 5185 mètres, soit 17 000 pieds, Monsieur Perry. George Mallory et Ward Somerville sont montés jusqu'à 8170 mètres, soit approximativement 27 000 pieds, en 14h30. Et cela sans oxygène, vous vous en souvenez. Leur vitesse d'ascension était donc de 206 mètres, soit environ 675 pieds, par heure. Est-ce clair jusqu'ici?
J.C. et moi avons hoché la tête de concert, mais je mentais. J'avais perdu le fil mathématique quelque part autour de la première mesure d'altitude.
Ensuite, Richard ici présent, Geoffrey Bruce et moi, partant nous aussi du camp de base avancé, nous sommes montés jusqu'à 8320 mètres, soit 27 300 pieds, l'altitude que j'ai déjà mentionnée et à laquelle je ferai de nouveau référence puisque c'était le point le plus haut jamais atteint sur l'Everest jusqu'à la disparition de Mallory et d'Irvine l'année dernière.
Il nous a fallu 12 h 15 min avec de l'oxygène pour atteindre cette altitude. Ce qui, avec un appareil à oxygène rudimentaire, nous donne une vitesse d'ascension de 256 mètres, environ 839 pieds de l'heure. Une vitesse clairement supérieure à celle de Mallory et Darwin. Richard et moi sommes d'accord pour dire que notre vitesse et notre altitude ultime auraient été encore supérieures si nous n'avions pas dû nous déporter pour faire une traversée sur la face nord à cause des vents terriblement violents sur l'arête.
Jean-Claude a levé la main comme un élève désireux de poser une question à son enseignant.
Mais vous avez dû faire demi-tour à cause d'un problème de valve dans l'équipement de Bruce. En définitive, les bouteilles d'oxygène vous ont donc gâché vos chances d'atteindre le sommet.
Finch a souri.
Je discuterai en détail du problème de valve quand nous y viendrons. Mais n'oubliez pas, je vous prie, monsieur Clairon, l'autre avantage d'avoir emporté des bouteilles d'oxygène si haut.
Il a regardé le diacre.
Ça nous a sauvé la vie à tous les trois.
Comment ça?
Ai-je demandé.
Le 24 mai, Richard, Bruce et moi avions renvoyé nos porteurs et planté notre tente dans une zone exposée à 7800 mètres, 25600 pieds. Nous nous sommes retrouvés coincés là pendant plus de 36 heures sous des vents déchaînés qui soulevaient littéralement notre tente du sol. Elle était devenue comme une voile au bord d'un précipice de 900 mètres. Il était impossible de dormir puisque nous devions en permanence maintenir la bâche de sol par terre. Et de temps en temps, l'un de nous s'aventurait dehors dans l'ouragan pour rajouter une corde de fixation à un rocher. Quand la tempête a commencé à se calmer, nous aurions dû aussitôt battre en retraite à une altitude inférieure, mais aucun de nous ne le voulait, même si nous étions presque à court de nourriture et que nos corps étaient de plus en plus engourdis par le froid. Ce soir-là, nous étions tellement affaiblis que nous montrions les premiers signes de gelure qui nous auraient été fatales avant le matin. Aucun de nous n'aurait pu réussir la descente jusqu'à un camp inférieur après une autre nuit sans sommeil dans ce froid pénétrant. C'est alors que je me suis rappelé les bouteilles d'oxygène que nous avions apportées.
Nous avons regardé le diacre.
L'oxygène nous a sauvé la vie, a-t-il confirmé. Pendant toute la nuit, quand le froid se faisait sentir avec le plus d'intensité, nous nous sommes passés le cylindre d'oxygène et quelques bouffées de cet air enrichi suffisaient à nous réchauffer. Les effets étaient instantanés. Cela nous a permis de dormir et de nous maintenir en vie et au chaud pendant la pire nuit que j'ai jamais passée en montagne.
Le lendemain matin, nous nous sommes lancés à l'assaut du sommet, a dit Finch. Nous avons quitté la tente à 6 h 30 et avons commencé à grimper vigoureusement. Les appareils à oxygène ne nous avaient pas seulement empêchés de mourir de froid la nuit précédente, ils nous avaient confortés dans notre volonté d'aller jusqu'en haut, ou du moins jusqu'à l'arête nord-est. Et souvenez-vous que c'était 48 heures après l'établissement d'un précédent record d'altitude, et pratiquement sans nourriture ou eau potable. Le vent avait soufflé si fort que la plupart du temps, nous ne pouvions même pas récupérer une casserole de neige dehors ou allumer le réchaud pour la faire fondre. Mais l'oxygène nous a permis de monter vers l'arête ce jour-là, à une vitesse bien supérieure à celle de Mallory et Somerville.
D'accord, ai-je dit au diacre et à Finch. Même moi, je comprends. Nous grimperons avec des appareils à oxygène.
Comment fonctionne-t-il, monsieur Finch?
Finch a commencé à nous expliquer à Jean-Claude et moi en s'adressant principalement à moi. Puis il s'est interrompu et m'a demandé
« C'est bien vous, monsieur Perry, le mécanicien bricoleur de cette expédition, n'est-ce pas ?»«
Sûrement pas, me suis-je récrié, presque inquiet. C'est à peine si je sais changer une bougie d'allumage.
C'est Jean-Claude, notre technicien. »
Finch a cligné des yeux.
« C'était idiot de ma part. Mon erreur vient peut-être de votre ressemblance avec Sandy Irvine, qui s'est chargé de tout le travail technique pour l'expédition de Mallory l'année dernière jusqu'à la réparation de cet appareil à oxygène. » Vous avez environ le même âge. 22 ans?
La même taille, le même poids, le même air assuré.
La même carrure athlétique de rameur, les mêmes cheveux blonds. Le même sourire.
Il s'est tourné vers Jean-Claude et lui a dit en français.
Pardonnez-moi, monsieur, j'aurais dû voir que vous étiez l'ingénieur du groupe.
Je vous en prie, a répondu Jean-Claude.
Mais je crains de n'être qu'un bricoleur, monsieur Finch, et non pas le jeune ingénieur brillant comme monsieur Irvine. Mon père, qui exerçait le métier de forgeron, a ouvert une petite aciérie avant-guerre.
Elle s'est développée pendant le conflit et mon père s'est lancé dans la fabrication de pièces beaucoup plus compliquées pour l'armée. J'ai observé et mis parfois la main à la pâte. Et je ne suis pas un ingénieur.
Je suppose que vous le serez pour ce groupe, a dit Finch en redressant le lourd appareil à oxygène.
Il a marqué une pause avant ce que j'imaginais être un cours sur son fonctionnement.
Je sais que Richard maîtrise tout ça, a-t-il dit. Mais vous deux, connaissez-vous la différence entre la quantité d'air et d'oxygène au niveau de la mer et disons à 8500 mètres d'altitude?
Une fois encore, j'ai eu l'impression d'être un élève soumis à une interrogation surprise. J'ai désespérément tenté de me rappeler la quantité d'oxygène au niveau de la mer. Aucun chiffre ne m'est revenu, et encore plus désespérément de trouver une équation qui me donnerait un résultat à 8500 mètres.
En divisant par 85, peut-être. Mais en divisant quoi?
Il y a exactement la même quantité d'air et d'oxygène à 8500 mètres qu'au niveau de la mer, a déclaré Jean-Claude d'un ton assuré.
Quoi? Mon ami français avait-il perdu la tête?
Très bien,
a dit Finch. Dieu merci, il s'est abstenu de prendre une agaçante intonation de prof et a continué à parler normalement.
Mais si le taux d'oxygène est sensiblement le même aux deux altitudes, alors pourquoi?
Là, il a marqué une pause théâtrale.
Pourquoi court-on facilement 2 kilomètres le long de la plage au niveau de la mer, alors qu'on doit s'arrêter en cherchant de l'air comme un poisson hors de l'eau au bout de 2 pas à 8500 mètres?
À cause de la pression de l'air, a répondu Jean-Claude.
Finch a opiné du chef. D'un point de vue scientifique, nous ne savons presque rien de la physiologie en haute altitude. Nos maigres connaissances viennent des quelques études menées par le ministère de l'air britannique ces dernières années. Cela fait très peu de temps que les avions réussissent à atteindre les 3000 mètres, et de tests réalisés au cours des expéditions dans l'Everest entre 1921 et 1924. Mais nous savons que c'est le manque de pression à des altitudes supérieures à 6000 mètres qui nous tue. Ça tue littéralement nos cellules cérébrales, nos organes et notre métabolisme, ainsi que notre capacité à réfléchir rationnellement. Comme le dit M. Clairoux, ce manque de pression rend la respiration plus difficile. On a du mal à faire entrer l'oxygène dans nos poumons et l'oxygène a du mal à passer dans les petits vaisseaux et les capillaires des poumons pour régénérer les globules rouges.
Il a brandi le lourd appareil à oxygène.
L'oxygène contenu dans ces bouteilles, ce que les Sherpas appelaient drôlement de l'air anglais durant notre expédition de 1922, est pressurisé pour une altitude de 4500 mètres. Là, pas de problème de respiration pour un alpiniste en forme.
Je me suis souvenu que le sommet du Cervin que nous avions atteint en juin l'année précédente culminait à 4470 mètres. Je n'avais effectivement pas eu de difficulté à respirer là-haut. L'air m'avait semblé un peu plus fin et beaucoup plus froid, mais suffisamment riche pour alimenter tout effort physique exigé par l'ascension.
Finch a placé les lourdes bouteilles d'oxygène devant lui. Ce modèle était très proche de celui que nous avait fourni le ministère de l'air, d'après les travaux du professeur Dreyer. Vous remarquerez le solide cadre en acier, le même que pour les sacs à dos Bergen, et les 4 bouteilles d'oxygène en acier, chacune à la pression de 4500 mètres dont je viens de parler. Puis il y avait cette masse de tubes, quelques valves régulatrices. Tout ce fatras passait au-dessus de l'épaule et retombait sur la poitrine du grimpeur, qui pouvait le manipuler au risque de couper toute alimentation en oxygène. Pour couronner le tout, il n'y avait pas moins de 3 sortes de masques, dont celui que j'avais moi-même modifié.
Finch a enfilé les bretelles de l'appareil à 4 bouteilles. Des tubes, des valves et des trucs pendouillaient devant lui.
Chaque bouteille d'oxygène pleine pèse 5 livres 3/4. A-t-il poursuivi. Vous préférez peut-être que je parle en kilos, monsieur Clairoux?
Comme vous voulez. Mais je vous en prie, appelez-moi Jean-Claude.
Oui, très bien,
a répondu Finch.
J'ai pris l'habitude de penser en système métrique. Donc chaque bonbonne pèse un peu plus de 2,6 kilos. Le poids total de l'appareil est d'un peu plus de 14,5 kilos. 32 livres pour vous, monsieur Perry.
Jake, ai-je dit.
Oui, très bien.
A-t-il répété.
Tenez, Jake, Richard ne connaît que trop bien le poids de ce modèle. Pourquoi ne pas l'essayer avant de le passer à Jean-Claude?
J'ai pris l'armature Bergen avec les bonbonnes d'oxygène et passé les épaisses bretelles sur mes épaules.
Ne sachant que faire du régulateur, des tubes et du masque, je les ai laissés pendre devant moi.
« Ce n'est pas excessif, ai-je dit. Il m'est arrivé de porter une charge deux fois plus lourde en haute montagne. »«
Certes, »
a dit Finch en souriant.
« Mais n'oubliez pas que vous aurez aussi un sac à dos ou autre fourre-tout, avec des vivres, vos vêtements, du matériel d'escalade, des tentes pour les camps en haute altitude. »«
Combien pèse une tente ordinaire pour trois personnes, Jake ?»«
60 livres.
27 kilos. »
Le sourire de Finch commençait à me paraître arrogant.
« Avec ce modèle de 1922, lors d'une escalade, on se retrouve vite déséquilibré vers l'arrière. Et vous imaginez gravir une paroi rocheuse avec toutes ces valves, tous ces régulateurs et ces tubes sur la poitrine ? Avec un harnachement pareil, on est épuisé au bout de 10 pas au-dessus de 5800 mètres. »
Jean-Claude passait les mains sur les bonbonnes d'oxygène, les tubes d'alimentation et les bidules de réglage, comme s'il pouvait mieux en comprendre la fonction uniquement grâce au toucher.
Je me suis reculé pour lui laisser plus de place.
« Essayez-le tous les deux, » a dit le diacre. « Je vous en prie. »
J.C. a posé l'appareil tout droit sur l'établi et l'a enfilé sans difficulté. Il l'a remonté et a attaché une sangle sur sa poitrine.
« Pas trop mal, » a-t-il dit. « J'escalade souvent avec un sac à dos plus lourd. Mais vous devez avoir raison en ce qui concerne le problème d'équilibre. »
Puis Jean-Claude m'a surpris. Posant un pied sur le tabouret, il s'est hissé à la seule force des bras pour s'agenouiller sur l'établi, puis s'est relevé, les mains plaquées sur le mur.
Effectivement, ça doit compliquer l'escalade d'une paroi de roche ou de glace, a-t-il constaté en baissant les yeux sur nous. Puis il a sauté à terre aussi légèrement que s'il ne portait pas 14,5 kg d'acier et d'oxygène pressurisé sur le dos.
Lorsque ça a été mon tour, j'ai rallongé les bretelles pour les adapter à ma taille et à ma carrure, fait quelques pas dans l'atelier et marmonné évasivement. Avec l'aide de J.C., j'ai retiré l'appareil et je l'ai reposé délicatement sur l'établi. J'ignorais si un tel poids me gênerait durant l'escalade, mais sans jamais l'avoir exprimé à voix haute, je comptais sur ma force et ma jeunesse pour réaliser des exploits physiques inaccessibles au diacre à cause de ses 37 ans. Et à Jean-Claude qui était beaucoup plus petit et léger que moi.
Puis il y a la triste histoire des différents masques,
a repris George Inglefinch. Il en avait fait glisser 3 devant lui sur l'établi.
Ce premier modèle s'appelait l'économiseur. Il a été conçu en tenant compte du fait qu'à une altitude comme celle de l'Everest, avec la pression plus basse, l'oxygène qu'on inspire est expiré en grande partie sans que le corps ou les globules rouges n'en tirent bénéfice. L'économiseur avait donc 2 valves.
Finch a retourné le masque et tapoté l'intérieur compliqué.
Elle devait permettre au dioxyde de carbone de passer à travers le masque tout en stockant l'oxygène non utilisé pour qu'il puisse resservir. Mais ces foutues valves n'arrêtaient pas de geler, ce qui rendait le masque inutile.
Il en a pris un deuxième, semblant encore plus lourd que le premier.
Nous avons tenté de résoudre ce problème avec ce modèle, appelé le standard, en cuivre flexible recouvert de peau de chamois. L'idée était qu'il puisse se plier facilement pour s'adapter au visage de chaque grimpeur, et s'il n'avait pas de valve, comme vous le voyez,
il a tapoté l'intérieur vide,
on contrôlait l'inspiration et la réinspiration en mordant dans l'extrémité du tube d'alimentation. La simplicité même.
Mallory détestait ce masque, a commenté le diacre.
Finch a souri. En effet. Autant qu'il détestait la solution d'urgence que j'avais enseignée à tous, à savoir arracher le masque et inspirer l'oxygène directement par le tuyau, comme le font souvent les pilotes de la Royal Air Force durant leur court vol au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Il les détestait tous les deux pour la même raison, parce que avec ce système, le grimpeur bave comme un bébé, puis la bave gèle ou coule dans la gorge et dans le cou avant de geler.
« Et le troisième masque » ai-je demandé en le montrant du doigt.
Ça a été ma réponse au problème de bave du standard. Des tubes en verre en forme de T, comme de petits morts, à la place des tuyaux en caoutchouc. Ils minimisaient la bave et permettaient de réinspirer plus facilement l'oxygène exhalé par le corps. Il y avait un problème, cependant, comme Geoffrey Bruce l'a découvert durant notre ascension record sur l'arête nord-est en 1922.
« Il casse, » a dit Jean-Claude.
« Exactement. »
Finch a soupiré.
Le tube en verre se fragilise dans le froid extrême et peut se briser ou se boucher, privant le grimpeur de tout oxygène. Avant les expéditions de 1921-1922, beaucoup de scientifiques spécialistes de l'atmosphère pensaient que, dans le cas d'un grimpeur utilisant de l'air pressurisé pour 4500 mètres, si le flux d'oxygène s'interrompait brusquement en altitude, disons à 8320 mètres, où Bruce, Richard et moi nous trouvions lorsque la valve de Bruce s'est cassée, l'alpiniste mourrait sur le champ. « Mais personne n'est mort », a dit Jean-Claude, manifestement au courant de l'histoire des appareils à oxygène dans l'Himalaya. Personne. Au moins 2 grimpeurs et 3 porteurs sont montés jusqu'à notre camp 5, à 7600 mètres sur l'arête Est, munis d'appareils à oxygène qui ne fonctionnaient pas du tout. Mais le problème de valve de Bruce, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, nous a obligés ce jour-là à faire demi-tour avant d'atteindre l'arête Nord-Est. C'est donc ce modèle, avec les valves en verre dans le masque, que nous utiliserons dans l'Everest, ai-je demandé, regardant alternativement le diacre et Finch. Non, ont-ils répondu d'une même voix. Finch a pris une 3e armature Bergen appuyée contre l'établi. Voici le modèle de Sandy Irvine, rebaptisé Mark V, a dit Finch en tapant sur les cylindres en acier. Vous voyez la différence?
Il me paraissait différent, en effet, mais j'aurais été bien en peine de dire en quoi. Attendez, il y avait 3 bouteilles d'oxygène et non plus 4. J'ai souri de ma propre perspicacité.
Presque tout est différent,
a dit Jean-Claude, faisant une fois encore courir ses doigts sur l'armature, les bouteilles, les cadrans et les tubes.
Pour commencer, je vois qu'Irvine a retourné les bouteilles, si bien que les valves sont en bas et non plus en haut.
Bon sang, ai-je pensé. Il avait raison.
Irvine s'est débarrassé de presque tous les tuyaux, a poursuivi Jean-Claude. Il a radicalement simplifié le débitmètre et l'a installé un peu plus bas au centre de l'appareil, afin d'améliorer l'équilibre de l'ensemble.
Sans demander la permission, JC a mis l'appareil d'Irvine sur son dos.
Le tuyau passe désormais par-dessus l'épaule et non plus sous le bras, et tous les tubes et valves qui pendaient devant sur l'ancien modèle ont disparu. L'alimentation en air devrait être ainsi améliorée et l'escalade facilitée. Et il paraît plus léger.
Oui, a confirmé Finch. Le modèle Mark V de feu, Monsieur Irvine, pèse 2 kilos de moins que ses prédécesseurs, tout en fonctionnant beaucoup mieux et en étant beaucoup moins inconfortable.
Bon sang, ai-je de nouveau pensé?
Monsieur Irvine a élaboré la plupart des modifications alors qu'il se trouvait encore à Oxford, a poursuivi Finch. Il en a envoyé les plans à l'entreprise qu'il fabriquait, notre fier Sib Gorman, et en presque un an, ils n'ont procédé à aucun des changements qu'il avait réclamés.
Aucun, ai-je répété?
Aucun. Ils ont ignoré ses ordres et ceux du comité de l'Everest et livré les mêmes appareils peu pratiques et encombrants que Richard, Mallory, Bruce et moi avions utilisés en 1922. Mon grand ami Noël Odell, qui a été le dernier à avoir vu Mallory et Irvine sur la montagne, m'a raconté que quand les 90 cylindres de l'expédition étaient arrivés à Calcutta, 15 étaient vides et 24 avaient déjà tellement fui qu'ils étaient inutilisables pour l'ascension. Monsieur Irvine aurait dit à Odell qu'il en avait cassé un rien qu'en le sortant de sa caisse. Nous avions eu la même mauvaise surprise en arrivant au camp de base en 1922. Moins 1 appareil sur 10 était en état de marche. Toutes les soudures fuyaient, les joints avaient tellement séché au cours du voyage à travers le désert pour rejoindre la montagne qu'ils n'étaient plus étanches, et la plupart des jauges ne fonctionnaient pas. Certains problèmes étaient réparables, et j'ai rafistolé ce que j'ai pu, mais globalement, on peut dire que l'appareil de Sib Gorman était de la camelote. Jean-Claude a retiré le modèle Mark V et l'a reposé sur l'établi. Le bruit a résonné dans l'atelier.
Comment Irvine a-t-il obtenu ce modèle amélioré alors?
Le petit sourire de Finch a réapparu.
Il l'a bricolé lui-même. D'abord au cours du trajet de 550 km jusqu'au pied de la montagne, puis au camp de base et dans les camps en altitude. Il n'a pas cessé d'y travailler, avec les quelques outils et pièces détachées à sa disposition. Jusqu'au matin où Mallory et lui ont quitté le camp 6 et disparu.
C'est donc cette version du Mark V d'Irvine que nous emporterons, je suppose? A demandé Jean-Claude.
Oui,
avec quelques modifications supplémentaires de mon cru, et fabriqué non pas par Sib Gorman, mais, comme je vous l'ai expliqué, par la Zuchefärke für wissenschaftliche Präzision, Instrumente und Geräte.
Son sourire s'est élargi de manière presque imperceptible.
Et je vous garantis, messieurs, une conception de qualité à la hauteur des exigences de feu Sunday Irvin.
Le diacre s'est avancé et a touché les bouteilles du Mark V.
Quelles sont ces ultimes modifications que vous avez réclamées, Georges?
J'ai demandé aux ingénieurs de Zurich de fabriquer l'armature, les débitmètres et plusieurs autres éléments en aluminium, un métal robuste dérivé de la bauxite. J'aurais souhaité l'utiliser aussi pour les bonbonnes d'oxygène, mais il s'est révélé impossible d'attacher les bonnes valves ou de pressuriser les bouteilles en aluminium, si bien qu'on a conservé des cylindres en acier. Mais avec 3 bouteilles et les nouvelles pièces en aluminium, le poids total sera notablement réduit.
Finch a encore sorti un nouvel appareil. Il ressemblait beaucoup au Mark V d'Irvin, mais il était un peu différent.
Réduit de combien?
A demandé le diacre en passant la main sur le cadre d'aluminium.
Finch a haussé les épaules, mais sa fierté était évidente.
L'appareil de Sib Gorman pesait 14,5 kg. Celui-ci à peine plus de 9.
Et vous avez aussi modifié les valves du masque? A demandé le diacre.
Finch a soulevé son nouveau modèle de masque. Il paraissait plus simple que tous les autres et plus flexible dans ses mains couturées.
Au lieu du verre, j'ai utilisé un caoutchouc de très haute qualité pour les embouts permettant d'inspirer et de réinspirer. Nous avons testé ce caoutchouc à une altitude de 9000 mètres et au-delà, et dans de l'air ultra sec. Il ne fuit pas et ne devient pas cassant.
J'ai pris la liberté de remplacer également toutes les valves et tous les joints du modèle de Sib Gorman par des pièces de ce caoutchouc supérieur.
Finch a baissé les yeux et à sa voix, on l'aurait cru gêné ou honteux.
Je n'ai pas eu le temps de tester tous les nouveaux composants dans la montagne, Richard. Je voulais le faire. Je comptais le faire. Je me disais que les arêtes le long de la face nord de l'Aeger seraient un bon test. Ce n'est pas juste que vous deviez découvrir si tout marche une fois sur l'Everest. Et la fabrication du nouveau modèle a pris tellement de temps.
Le diacre a donné de petites tapes dans le dos de Finch.
Merci, mon ami.
Je suis sûr que grâce aux tests que vous avez menés ici à Zurich, les bonbonnes que nous avons commandées fonctionneront et ne fuiront pas comme les précédentes. Merci pour tout votre travail et tous vos conseils, Georges.
Finch nous a gratifié de son petit sourire, a hoché la tête et mis ses mains dans ses poches.
Le diacre a regardé sa montre.
Nous devrions y aller si nous ne voulons pas rater notre train.
Je vais vous accompagner à la station d'Eisenbahn.
Le train était à l'heure, un pléonasme évidemment puisque c'était un train suisse.
Le diacre et moi allions traverser la France jusqu'à Cherbourg, puis direction l'Angleterre pour les derniers préparatifs.
Jean-Claude repasserait par Chamonix, surtout à mon avis pour dire adieu à la fille qu'il comptait épouser, et nous rejoindrait à Londres. De là, nous irions ensemble à Liverpool prendre le bateau qui nous emmènerait en Inde.
En quittant Zurich, nous emportions tous les 3 2 valises Gladstone remplies de 9 parkas en duvet compressé.
Alors que nous nous apprêtions à monter dans le train, Finch, resté silencieux pendant tout le trajet dans le froid jusqu'à la gare, a soudain pris la parole.
Je dois vous dire une dernière chose concernant la raison pour laquelle vous allez dans l'Everest. Enfin, à propos de Lord Bromley.
Nous avons hésité. Le diacre avait un pied sur le marchepied. Il n'y avait personne derrière nous. Nous sommes restés sur le quai, nos valises à la main, tandis que la vapeur du train nous enveloppait dans ses volutes chaudes.
J'ai revu Bromley une fois, longtemps après avoir escaladé avec lui,
a poursuivi Finch.
Il m'a rendu visite ici, à Zurich. Il est venu chez moi au printemps 1923, en avril. Il voulait m'interroger sur un aspect de notre expédition de 1922.
Finch paraissait chercher ses mots. Nous attendions en silence. Sur le quai, les derniers passagers embarquaient. Expirant un petit nuage d'haleine qui s'est mêlé à la vapeur, il a repris.
C'est assez absurde, en fait.
John Bromley voulait que je lui dise tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu et entendu à propos de, eh bien, du Metokangmi.
Le Yeti, ai-je dit, surpris.
Oui, Monsieur Perry. Jake, a répondu Finch avec un dernier sourire. Le Yeti. Je lui ai parlé des empreintes que j'avais vues en altitude sur le glacier du Hongbok, près du col Nord. Lui ai montré les photos prises par Mallory l'année précédente près du lac Pala et lui a rapporté les propos du lama du monastère du Hongbok, selon lequel 5 Yétis vivaient sur les hauteurs de la vallée. C'est tout ce que j'ai pu dire ou montrer au jeune Bromley. Pas de quoi faire le voyage depuis Paris où il séjournait à ce moment-là. Mais il n'a pas paru déçu. Il m'a remercié pour mon temps et pour ses informations, a terminé son thé et il est reparti l'après-midi même.
Le chef de gare nous faisait signe en montrant ostensiblement sa montre.
Bromley vous a-t-il précisé pourquoi il s'intéressait à cette histoire de Yeti ? A demandé le diacre.
Finch a secoué la tête.
Puis il a fait un pas en avant, incliné légèrement le buste, fait claquer ses talons de manière formelle et presque prussienne, et nous a serré la main à tous les trois.
Au revoir, messieurs. J'ai le sentiment que je ne vous reverrai pas, mais je vous souhaite à tous beaucoup de chance dans vos voyages, votre aventure dans l'Everest et dans votre quête.